Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, nous allons entamer la troisième étude dans notre brève série sur Satan. Existe-t-il ? Qui est-il ? Comment est-il ? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et au verset 11, dit que nous ne devons pas ignorer les régimes, les plans, les stratagèmes ou les ruses de Satan. Nous avons besoin de savoir comment il fonctionne. Nous avons besoin de savoir quelque chose sur son caractère, quelque chose sur sa personne, quelque chose sur son approche. Et puisque nous avons la parole de Dieu qui démasque les déguisements de Satan et qui révèle ses projets, il n'y a vraiment aucune raison d'être ignorant. Ce que nous essayons de faire dans notre étude ensemble est tout simplement d'ouvrir les pages de la parole de Dieu et de vous montrer ce que Dieu a révélé au sujet de notre ennemi. Nous avons déjà vu que l'un des stratagèmes les plus astucieux est de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. S'il n'y a pas d'ennemi, alors nous n'avons pas besoin d'un moyen de défense. Et s'il n'y a pas de défense, alors la victoire est facile. Pour ceux qui insistent à croire qu'il existe, Satan énoncera plutôt des idées fausses sur lui-même. Qu'il existe, mais qu'il est quelque chose de moins de ce qu'il est vraiment. Certains l'imaginent être une sorte de figure mythologique représentant le mal général. D'autres le voient comme une sorte de monstre dégradé de conte de fées, habillé de satin, cornu, rouge, avec la queue fourchue. D'autres le voient comme quelqu'un à craindre, quelqu'un qui tourmente les chrétiens, et que nous devons courir et aller quelque part pour être délivrés. Croyez-moi, Satan préfère que les gens le croient inexistant. Et même s'il existe dans les pensées de l'homme, il préfère certainement être invisible. Il ne veut pas que les gens sachent comment il est en réalité. Donc il se masque, et la Bible le démasque. Il est étonnant que même ceux qui prétendent adorer Satan n'adorent pas vraiment Satan, qui existe, mais un Satan fabriqué, que Satan utilise lui-même pour piéger les hommes. Il est trompeur, il est le maître séducteur de l'univers, et nous avons vu ces dernières semaines combien il est important de comprendre cela. Pour les personnes religieuses, pour les personnes qui non seulement croient au diable, mais croient en Dieu, et croient peut-être dans le vrai Dieu, Satan a une autre approche. Il aime être pris pour Dieu. Tellurien a dit « Diabolos es deissimia », ce qui se traduit par le diable et le singe de Dieu. Ce que Tellurien voulait dire est que le diable n'aime rien de plus que de singer Dieu. Et croyez-moi, il y a beaucoup de chrétiens qui, sans savoir, pensent que Dieu est en train de faire quelque chose, quand ce n'est pas Dieu du tout. Nous avons passé plusieurs semaines à soigneusement essayer d'explorer son caractère, en essayant de faire exploser les mythes dont il est l'auteur pour cacher qui il est vraiment. Nous avons essayé de le démasquer. Nous avons étudié la question « Existe-t-il ? » et déterminé qu'il existe. Nous avons étudié la question « Qui est-il ? » et nous l'avons démasqué comme un ange déchu. Nous avons parlé de « Comment est-il ? » et nous avons étudié ce qu'il est du point de vue de ses noms, ses titres et ses termes utilisés pour le décrire. Et ce soir, nous arrivons à la quatrième étape de notre étude. Comment opère-t-il ? C'est un stage pratique pour notre propre vie. Comment Satan opère-t-il dans le monde pour atteindre ses propres fins ? Maintenant, cela nous amène dans le vif du sujet de la vie. Accrochez-vous à votre Bible, parce que nous allons signaler beaucoup de choses importantes. Maintenant, en étudiant comment Satan opère, nous devons simplement comprendre qu'il attaque deux catégories de gens. Ses propres enfants et les enfants de Dieu. Ce sont les deux domaines dans lesquels Satan agit. Maintenant, regardons tout d'abord la première catégorie. Voyons comment Satan travaille avec ses propres enfants. Je crois que toutes les personnes dans le monde qui sont sans Jésus-Christ, qui ne font pas partie de la famille de Dieu, sont les enfants de Satan. Et je tire cela de 1 Jean 5 au verset 19, où il est dit « Et le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. » Jésus a dit dans Jean 8 au verset 44, en parlant des pharisiens, « Vous, vous êtes de votre père le diable, et je crois que cela pourrait être élargi pour inclure toute personne qui n'est pas un enfant de Dieu. » Alors maintenant, comment Satan fonctionne avec ses propres enfants? Permettez-moi de vous suggérer trois façons suivies par quelques spécificités. Tout d'abord, c'est un travail de prévention. Satan est occupé par des travaux de prévention. Il y a plusieurs éléments que nous pourrions mentionner, mais au début, regardez le 8e chapitre de Luc, que nous allons ensuite comparer avec le 13e chapitre de Matthieu. Allez au 8e chapitre de Luc, donc. Nous sauterons l'instruction initiale de notre Seigneur dans la parabole, et nous irons droit à son explication au verset 11. Luc, chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, vous savez qu'un semeur sème les graines. Le semeur parle de celui qui répand la parole, qui répand la vérité. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient enlever de leur cœur la parole, afin qu'ils n'aient pas la foi pour être sauvés. Et vous remarquerez au verset 5 que le bord du chemin y est décrit comme un terrain foulé, un chemin rocailleux et dur. La graine tombe, elle se trouve juste là, et les oiseaux la prennent. Et c'est emblématique de la parole de Dieu qui se répand sur le sol dur, qui ne la reçoit pas, car le diable vient et la prend. Le diable est dans un travail de prévention, et tout d'abord il enlève la parole. Il enlève la parole. En outre, pour comprendre le tableau complet de la parabole, nous devons examiner Matthieu chapitre 13, où nous lirons d'autres choses qui s'ajouteront à notre compréhension. Dans Matthieu 13, nous avons la parabole à nouveau. Verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Voici le diable qui arrive pour l'arracher. Maintenant, dans cette parabole, nous avons quatre types de cœurs, quatre types de sols. Nous avons le cœur insensible au verset 19, qui ne comprend pas. Il n'enregistre même pas. Il a un cœur totalement insensible. Ensuite, nous avons le cœur impulsif, versets 20 et 21, celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. C'est le cœur impulsif, la personne qui prend une décision tout de suite pour le Christ, mais qui n'a pas de réelle racine. Le verset 22 nous parle ensuite du cœur préoccupé. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole, et elle devient stérile. Voici le cas de quelqu'un qui est trop préoccupé par le système pour se donner à la parole. Ensuite, il y a dans le verset 23 de la bonne terre, le cœur sensible. Nous avons donc un cœur insensible, un cœur impulsif, un cœur préoccupé et un cœur sensible. Nous constatons donc que dans notre parcours, nous regardons un cœur insensible et la parole de Dieu se pose sur le cœur où il y a de l'indifférence, où il y a de l'endurcissement, une attitude sans réponse, du rejet, et le diable vient et arrache la parole. Maintenant, remarquez ceci. Le diable peut le faire parce que le cœur est dur. La situation ici est la dureté du cœur. La parabole enseigne que le résultat d'entendre l'Évangile dépend toujours de l'attitude du cœur. Et c'est seulement là où le cœur est dur que Satan peut se déplacer et enlever la parole. C'est précisément ce qu'il fait. Avant que la personne ne puisse méditer ou réfléchir ou permettre à la parole de prendre un sens significatif, Satan l'arrache, en faisant glisser de nouvelles séductions attrayantes devant ses yeux. De nouvelles séductions qui n'ont pas été rejetées, pour atteindre la personne par de tels divertissements. Et la parole est perdue. Il y a un second passage qui nous aidera à comprendre son travail de prévention. Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3. L'apôtre Paul parle un peu de son propre ministère, et sur le fait que Dieu a changé sa vie, qu'il a été transformé, qu'il n'est plus celui qui propageait des choses cachées et malhonnêtes, mais celui qui dit la vérité. Il dit au verset 3, « Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, qui est Satan, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Et là encore, la conclusion est que Satan peut seulement aveugler celui qui volontairement ne veut pas croire. Ce n'est pas l'idée que Dieu veuille que vous soyez sauvés, mais que Satan ne le veut pas. Et vous lancez le vote décisif. Ce n'est pas l'idée que vous êtes la victime de Satan, en quelque sorte pris au piège, que vous souhaitez voter pour Dieu, mais vous êtes aveuglé par Satan. L'idée est plutôt que parce qu'il y a un cœur incrédule, Satan peut s'en accaparer et vous rendre aveugle. Je répète, Satan fait son travail de prévention, et pour ces personnes qui ont le cœur dur, l'Évangile est sans importance, Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il est écrit « En effet, la parole de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Satan se déplace et l'arrache. » Mais non seulement Satan est impliqué dans le travail de prévention avec ses propres enfants, mais d'autre part, il est aussi dans le travail de la perversion. Il veut non seulement empêcher la vérité, il veut pervertir la vérité, de sorte que ce que les gens entendent n'est pas la vérité du tout, et il le fait par plusieurs moyens. Premièrement, il essaye d'enseigner de fausses doctrines. Dr. Pentecoste a une déclaration très utile. Voici ce qu'il a dit, et je cite. Satan, bien sûr, aurait préféré ne pas avoir à faire le travail d'enlever la graine qui a été semée. Il préférerait donc contrôler celui qui est en train de faire la prédication, afin que quelque chose d'autre que la bonne semence de la parole de Dieu soit proclamée. Maintenant, écoutez. Pensez au travail que Satan doit accomplir quand la parole est prêchée. S'il y a 500 personnes présentes lorsque la vraie parole de Dieu est plantée dans 500 cœurs, il doit envoyer 500 démons qui entreront dans 500 vies différentes afin de prendre ce qui a été semé. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai. Il pourrait y avoir un démon très rapide, ou tout un tas, ce qui est évident. Quelle économie d'énergie s'il peut rassembler ces gens qui pensent avoir été enseignés par la parole de Dieu, mais qui ont entendu un mensonge du diable. Il aurait à travailler avec une seule personne au lieu de 500, mais sachant que la parole de Dieu sera proclamée et que la vérité de Dieu sera déclarée. Satan se prépare et empêche la bonne semence de la parole de tomber dans la bonne terre, s'il le peut. Je suis sûr qu'il a raison en fait, car Satan aimerait plutôt pervertir que prévenir, c'est évident. Il pervertit activement par l'enseignement de la fausse doctrine. Croyez-moi, des prédicateurs de Satan parlent tous les dimanches devant des milliers de chairs, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens, je vous encourage à tourner vers une partie familière de l'Écriture qui doit être considérée par rapport à ce que je viens de dire. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 13. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Vous voulez savoir où Satan est le plus actif? C'est dans le cadre de la religion, et, dans notre cas, le cadre de la religion chrétienne. Ce n'est pas étonnant. Ne soyez pas surpris, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se transforment aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan fait le travail de pervertir en mettant son propre peuple, des personnes influencées ou possédées par des démons, dans les chairs pour qu'ils propagent une fausse doctrine. Dans 1 Timothée, par exemple, vous êtes familier avec le passage dans le chapitre 4 qui dit « Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons, par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » Il parle directement des mensonges hypocrites, et cela ne semble même pas les déranger. Les faux prophètes, et ils sont innombrables, sont une grande arme pour Satan. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 9, nous constatons que Satan fait des choses étonnantes, apparemment pendant la période de la tribulation. Il dit « L'avènement du sans-loi se produira par l'opération du Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Non seulement, il parle parfois de mensonges qui sonnent comme une vérité, mais ils font parfois des actes qui sont sataniques, mais qui semblent pieux. Et là, nous avons de nouveau Satan qui fait le singe en imitant Dieu. Avez-vous déjà analysé ce qu'était le noyau de la fausse doctrine de Satan? Permettez-moi de vous le donner en un mot. Comme quelqu'un l'a dit, si vous pouvez le concevoir, vous l'avez en un mot. Mais juste une pensée. Quelle est la fausse doctrine de base que Satan propage? Premièrement, il nie toujours l'autorité des Écritures. Toujours. Vous voyez, si vous pouvez détruire l'autorité de ce livre, il n'y a plus aucune autorité nulle part, et rien ne compte, rien. Tout devient arbitraire. Il a commencé au début, dans Genèse 3, quand il a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il dit cela? Comment savez-vous que Dieu l'a dit? » Dénigrer la vérité de Dieu, c'est typique. 2 Timothée, chapitre 4. Non seulement il l'a fait au début, il va le faire tout le temps jusqu'à la fin. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Le verset 3. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Satan nie l'autorité de l'Écriture. Deuxièmement, Satan nie toujours la divinité du Christ, les faux enseignants nieront toujours la divinité du Christ, niant le Seigneur qui les a rachetés et qui comprend la doctrine du salut. Si vous niez la divinité du Christ, vous avez anéanti la doctrine du salut. Les deux doivent aller de pair. Si le Christ n'était pas le Dieu homme, et s'il n'était pas Dieu tout-puissant dans la chair humaine, en mourant sur la croix pour l'expiation des péchés, il n'a rien accompli du tout, et ainsi le salut n'existe pas. Et cela plaît à Satan, parce que son grand mensonge dans le domaine du salut est que vous n'êtes pas sauvé par la foi. Vous êtes sauvé par quoi? Les œuvres. Il n'y a que deux façons d'être sauvé. D'abord la religion de l'accomplissement divin ou la religion de l'accomplissement humain. C'est un grand argument de Paul dans le livre des Galates que l'homme n'est pas sauvé par l'accomplissement humain, mais par la réalisation divine. Et Satan nie l'autorité des Écritures. Il nie la divinité du Christ. Ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, a déclaré Jean dans 1 Jean, chapitre 4. Une autre chose que Satan nie toujours, en plus de l'autorité de l'Écriture, la divinité du Christ et le salut par grâce, par la foi, c'est la seconde venue du Christ. Parce que la seconde venue est liée au jugement. Et vous verrez généralement que les faux enseignants ont l'eschatologie la plus gâchée, concevable, parce qu'ils doivent se débarrasser du jugement ultime. Dans 2 Pierre 3. Il nous dit que les faux enseignants disent, en se moquant, au verset 4, « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que des pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Pierre dit, « En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Et ils sont occupés à propager la fausse doctrine, niant l'autorité des Écritures. » La divinité du Christ, la doctrine du salut par grâce, par la foi et la seconde venue. À la place, il propage beaucoup d'autres fausses doctrines. Par exemple, un des messages favoris de Satan est que vous pouvez échapper à la rébellion. Il aime celui-là. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Satan essaie de prouver que la rébellion contre Dieu marche. Voilà tout le plan qu'il essaye de dévoiler, que ce que Dieu essaie de vous montrer n'est pas vrai. La rébellion contre Dieu ne fonctionnera pas. Dieu veut que l'univers sache cela. Et ainsi, Satan est en mesure d'exécuter toute la gamme de sa rébellion. Mais Dieu va montrer à toute créature dans l'univers que la rébellion qui s'épuise en allant aussi loin que possible ne fonctionnera pas. Mais Satan veut que les hommes croient que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, que tout va bien finir, la rébellion fonctionnera. Voilà le mensonge. Je me souviens d'avoir lu une histoire d'Hemingway. Elle était dans un article écrit dans le magazine Playboy, qui a été cité dans le magazine Eternity, où je l'ai lu. Il a déclaré que, et c'était juste après la mort d'Hemingway, et l'article parlait du fait que, à son apogée, il a été dit qu'il avait prouvé qu'il était possible de pécher et de s'en sortir. Il avait rejeté la morale biblique en faisant exactement comme il lui plaisait et en tenant le monde par un fil. Il a dit qu'il avait gagné des guerres, qu'il avait fait tomber des femmes et fait ce qu'il voulait, qu'il avait bu autant qu'il... Et il poursuivait pendant un bon moment, se vantant d'avoir détruit la morale biblique. Et puis 10 ans plus tard, jour pour jour, il a pris une arme à feu, l'a mise à côté de sa tête et s'est fait sauter la cervelle. Satan dit que vous pouvez échapper à la rébellion. N'y croyez pas. C'est l'une de ses fausses doctrines. Il dit que vous pouvez pécher autant que vous voulez, que tout ira bien. Une autre chose que Satan propage historiquement est que l'idolâtrie est la chose à faire. C'est merveilleux d'avoir un Dieu. Il aimerait que tout le monde en ait un, à condition que ce soit un faux. Il ne veut pas que tout le monde soit athée. Il voudrait que tout le monde ait une religion, adorant le Dieu qui n'est pas là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les dieux des nations sont des démons. L'homme veut adorer un rocher. Satan le laisse adorer un rocher et laisse un démon usurper l'identité du Dieu qu'il croit être dans la roche, pour le tenir accroché au rocher. Psaume 106, je pense, verset 36 dit « Ils ont servi leurs idoles, et celles-ci ont été pour eux un piège. » Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Quand ils sacrifiaient aux idoles, ils sacrifiaient des démons, car les démons avaient personnifié le Dieu qu'ils adoraient. Satan aimerait que les gens soient religieux, tant qu'ils adorent le mauvais Dieu. Satan favorise même le culte de l'ange. Lisez Colossiens 2, versets 18 à 23. Il aimerait que les gens adorent les anges. Et il y a des gens aujourd'hui qui font ça. Ils font cela même dans l'Église catholique romaine. Alors Satan, perverti par la fausse doctrine, contrecarrant la vraie doctrine et propageant la fausse doctrine. Une autre façon dont Satan pervertit est par le moulage d'un style de vie accablant, non seulement par la fausse doctrine, mais en emprisonnant les gens dans un style de vie de culpabilité, à partir duquel ils sont incapables de s'extirper. Et nous constatons dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air. Cet esprit est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. » Satan aimerait amener les gens à être pris au piège dans son système, de sorte qu'ils marchent selon le monde, de sorte qu'ils soient soumis au prince de la puissance de l'air, de sorte qu'ils travaillent en eux, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Il veut piéger des hommes, comme il est dit dans le verset 3, « Selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère. » Satan veut prendre au piège des hommes dans un style de vie accablant, à partir duquel ils ne peuvent pas se dégager. Non seulement une propagation théorique, mais en les entraînant dans une pratique qui les emprisonne. Plus précisément et en général, Satan travaille avec ses propres enfants par l'oppression. Et c'est juste un mot. Il ne cherche pas à y mettre un mot distinct. C'est juste un mot qui couvre beaucoup de choses. La possession, l'obsession, l'oppression, tout ce que vous voulez. Il travaille avec son propre peuple, par une oppression très directe. Il existe de nombreuses façons d'illustrer cela. Grâce à la cupidité, il y a beaucoup de différents démons. Saviez-vous que certains d'entre eux étaient plus pourris que d'autres? Apparemment, il y a des degrés dans le mal. Certains d'entre eux, apparemment, en regardant les termes utilisés pour les décrire, sont particulièrement méchants. Satan voudrait conduire les hommes dans l'abandon total à leur convoitise, et il réussit. Si vous regardez Romains, chapitre 1, vous verrez pour la plupart que le monde a fait cela. Il dit au verset 24, « Dieu les a livrés. » Voilà ce qu'ils voulaient faire. Ils échangèrent Dieu pour Satan, verset 26. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. Vous remarquerez que le corps semble être le sujet majeur du verset 24, alors que le cœur et l'affection semblent être le sujet majeur du verset 26, et l'esprit, le sujet majeur du verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ainsi le corps, le cœur et l'esprit, corps, affection et intellect, tout corrompus. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, plein d'envie, de meurtre, de disputes, de ruses, de vices, diffamateurs, etc., etc. Le verset 32 dit « Et bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils le font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui les pratiquent. Et Satan désire opprimer les gens, en les abandonnant à leur convoitise. Ne voyons-nous pas cela dans notre monde d'aujourd'hui? Ne voyons-nous pas des gens qui ont perdu le contrôle? Ils s'abandonnent totalement à toutes les convoitises. Satan a d'autres moyens pour opprimer son peuple, non seulement à travers leurs désirs. Et j'ai parlé à des gens qui sont allés si loin dans le domaine de la luxure qu'ils se méprisent. Il y a des gens qui se sont tués à cause de cela. J'ai parlé à une fille un moment qui ne pouvait pas se regarder dans un miroir parce que la vue d'elle-même la rendait malade. Mais il opprime aussi son propre peuple par la maladie. La Bible dans l'Évangile nous parle de personnes qui sont nées muettes. Elles ne pouvaient pas parler. Par Satan et ses démons, d'autres sont nées aveugles. D'autres avaient des malformations physiques, d'autres avaient de l'épilepsie, des personnes qui ont effectivement eu des maladies attribuées par Satan et ses démons. En outre, non seulement il opprime son peuple à travers les convoitises et par la maladie, mais par la maladie mentale. Je crois que l'une des grandes causes de la maladie mentale dans le monde, et même aujourd'hui de toute évidence, vient de l'effort satanique. Avez-vous lu Marc chapitre 5 récemment sur le démoniaque en Gadara? L'homme vivant parmi les Gadaréniens qui habitaient dans les tombeaux, ils essayaient de le lier. Ils rompaient constamment les liens, ils se coupaient et ils criaient. C'était une créature horrible. Sa folie était due au fait qu'il était absolument possédé par des hôtes démoniaques. C'était un fou. Dans Marc, au chapitre 9 et au verset 22, il y avait un fou suicidaire qui tente de suicider, strictement en raison de la puissance démoniaque. Je suis sûr que non seulement beaucoup de maladies mentales, mais aussi beaucoup de suicides sont le résultat de l'activité de Satan, son oppression sur son propre peuple. Et puis, bien sûr, l'illustration de Marc 5 souligne également que Satan peut opprimer son peuple, non seulement par la folie et le désir suicidaire, mais même par le masochisme. Oui, il se mutile. Et puis, une autre pensée à laquelle peut-être vous n'avez pas trop réfléchi, c'est que Satan peut apparemment aussi, quand Dieu le permet, opprimer ses propres enfants par la mort. Vous dites, où trouvez-vous cette information? Regardez avec moi une minute à l'Apocalypse, chapitre 9 et verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. C'est la sixième trompette. Elle disait au sixième ange qui avait la trompette, « Détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Alors les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des humains. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 20 000 × 10 000, 200 millions. J'en entendis le nombre. C'est ainsi que, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, et ainsi de suite. Cela les décrit. Le tiers des humains fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Voici une armée satanique, c'est une armée d'inspiration démoniaque, qui détruit littéralement un tiers de la terre. Dieu donne à Satan le pouvoir de prendre la vie. Il peut donc opprimer son peuple par la convoitise, par la maladie mentale et par la mort, si Dieu lui donne ce droit. Comment Satan fonctionne avec ses propres enfants? À travers la prévention et la perversion. Permettez-moi de vous donner une troisième voie, par la politique. Satan travaille avec son propre peuple, en influençant les gouvernements et les nations. Vous dites, comment Satan influence les gouvernements et les nations? J'ai eu une conversation très intéressante à ce sujet il y a un an avec un jeune homme qui avait été très impliqué dans une société appelée Mark Age Society, qui est un échelon supérieur, démoniaque, orienté vers le spiritisme et la sorcellerie. Ils ont des contacts avec de nombreux médiums. Ils se réunissent à Santa Monica dans une très grande maison, et ce sont des gens très riches qui sont impliqués là-dedans. Certains d'entre eux sont des gens très bien connus dans l'industrie de la musique. Ils les rencontraient assez régulièrement dans cette Mark Age Society, où ils trouvaient de petits morceaux d'informations étonnants qu'ils me racontaient. Je recevais l'information à laquelle personne dans le monde n'a été exposé, sauf ce petit groupe de personnes. Ils me disaient, par exemple, que ces gens ont la connaissance de certains démons, et ils savent où certains autres démons se situent. Maintenant, si oui ou non vous pouvez croire tout ce que les démons disent, est une bonne question. Mais ce qu'il a trouvé, que ce soit vrai ou non, est très intéressant. Probablement, il y a une certaine vérité là-dedans. Il a dit que le démon qui est en charge de l'Amérique, celui qui est responsable de la propagation d'une certaine influence démoniaque en Amérique, est un membre très élevé dans les Nations Unies. Il habite dans un certain personnage qui a un lien avec l'Amérique dans l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, c'est juste un petit morceau de l'information qu'il m'a donné. Je ne veux pas vous en dire trop, car cela va vous détraquer le cerveau. Il m'a également dit qu'on lui avait communiqué où, dans l'univers, soi-disant sur Mars et Jupiter, était l'emplacement du siège de la force démoniaque, et tout cela leur avait été transmis par le biais de médiums et d'esprits avec lesquels ils étaient en contact. Il a dit aussi que les démons ont un réseau dans les gouvernements des pays comme le nôtre par lequel ils contrôlent le pays. Maintenant, si vous pensez que c'est quelque chose de flambant neuf, vous devez revenir en arrière et lire le 10e chapitre de Daniel. Ce n'est pas nouveau. Les démons font de la politique depuis le début. Quand Satan a été démasqué dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, les deux fois, le prophète parlait avec quelqu'un qui régnait, n'est-ce pas? Et puis, si vous allez derrière cette personne, Satan était vraiment là. Dans le cas de Daniel, au chapitre 10, vous avez certaines nations régies par des hommes, mais les hommes étaient possédés par des démons. Satan a toujours été actif dans la politique. En fait, quand il a tenté notre Seigneur dans Matthieu, au chapitre 4, il a eu l'audace de lui dire « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Tout. Quoi? Tous les royaumes du monde. Eh bien, vous savez quoi? Il aurait pu le faire. » Voilà un fait étonnant. Éphésiens 6 dit, écoutez, je le lis, « Quand vous vous rendez compte de la réalité de la vie chrétienne, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises. » Qui sont dans les lieux célestes. Les démons règnent vraiment dans ce domaine autour de nous. Depuis Babel, Satan a dirigé les nations du monde par ses hôtes, les démons, et Dieu a permis, et Dieu a gardé le contrôle de celui-ci par le Saint-Esprit, qui restreint et limite les pouvoirs de Satan. Mais néanmoins, Satan est actif. Donc, il opère avec ses propres enfants en empêchant, pervertissant et faisant de la politique. Comment fait-il avec les chrétiens? Regardons cela. Comment opère-t-il dans notre vie, à vous et à moi? C'est vraiment important de le savoir. Je vais vous indiquer plusieurs manières. Premièrement, en créant le doute. Une des choses qu'il aime faire avec les chrétiens est de nous faire douter, nous faire lutter avec la réalité. Au cours des deux derniers jours, je suis passé par une terrible lutte dans mon propre esprit à cause d'un doute. Vous savez ce que Satan m'a dit? Toute cette histoire chrétienne est un tas de balivernes. C'est vrai. Et je répondais, oh non, c'est impossible. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour entendre ça. Et je me débattais avec lui. Et je rassurais ma confiance en regardant la parole de Dieu et en récitant des versets. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et je sais ce à quoi je me suis engagé avec lui. Il est capable de garder contre ce jour-là. Et j'ai commencé à dire tous les versets que je connais. Satan nous tente tous de cette façon. Il aime ça. Au tout début, dans Genèse 3, avec quoi tenta-t-il Ève? Il voulait qu'elle doute de Dieu, qu'elle doute de la parole de Dieu, qu'elle doute de la bonté de Dieu. Dieu a fait une erreur. Il n'aurait jamais dû faire cela avec vous. C'est une sale affaire. Ève doutait de la préoccupation de Dieu, de la sécurité de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans deux endroits, « Mettez sur vous le casque de l'espérance du salut et débarrassez-vous de ces doutes. S'il a dit qu'il vous a sauvé. » C'est ce qu'il voulait dire. Et quand Satan vient avec le grand Rom Faya, le grand sabre de doute, il va ricocher sur ce casque. Vous êtes à lui. Vous êtes en sécurité. Deuxièmement, une autre chose qu'il aime faire, c'est non seulement la création du doute, mais la motivation de la persécution. Satan aime provoquer la persécution. On le voit créer le doute dans Genèse, chapitre 3. On le voit amener la persécution dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. » Et c'est l'église de Smyrne. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Nous avons ici une illustration du fait que Satan aime persécuter l'église. Nous avons tout simplement subi suite à Israël. Il a toujours persécuté Israël. Vous lisez Apocalypse, chapitre 12, tout y est. Il a toujours persécuté les gens, la femme qui avait enfanté un fils, le peuple de Dieu. Il persécute l'église aujourd'hui. Et ici, nous le trouvons dans l'église de Smyrne, nous donnant une illustration du fait que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Satan veut persécuter l'église. Alors Satan crée le doute. Satan persécute l'Église. Attendez-vous à cela. C'est ce qu'il va faire. Préparez-vous à cela. Troisièmement, et nous allons en parler rapidement, donc accrochez-vous. Satan aime entraver le service. Il se met à faire obstacle à notre service. Parfois, c'est un combat terrible de passer à travers pour arriver ici pour vous enseigner. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une connexion ou non, mais la nuit dernière, je ne pouvais pas du tout dormir. Mon estomac m'a fait mal toute la nuit. Je me suis réveillé avec une terrible douleur à l'estomac. Et j'ai passé du temps à prier en disant, « Dieu, je ne sais pas si cela est vraiment ce que je pense que c'est, mais si c'est cela, attrape-le. Je sais qu'il ne veut pas que je le dénonce demain soir. Empêche-le de m'arrêter. » Et puis, je suis arrivé ici, et je me suis rendu compte que j'avais oublié, lors des deux premières réunions ce matin, d'annoncer aujourd'hui que la réunion de ce soir commençait à 18h au lieu de 19h, et personne ne serait là. Dieu m'a bien gardé, et je pensais que personne ne serait là. Mais vous êtes ici, et nous avons attendu quelques minutes, juste pour donner le temps aux autres d'arriver, ceux qui avaient besoin d'entendre cet enseignement. Satan aime empêcher notre service. Permettez-moi de vous montrer où cela se trouve dans le Nouveau Testament. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, et, comme je le disais, ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des illustrations bibliques tout simplement. 1 Thessaloniciens 2, verset 18, et nous allons retenir le point suivant. Plus d'une fois, nous avons voulu venir vous voir. Vous savez, quand Paul a quitté Thessalonique, le désir de son cœur était d'y retourner. Il voulait y revenir, et il y avait beaucoup de spéculations sur la raison pour laquelle il n'a jamais pu repasser par là. Certains disent, « Eh bien, ce fut parce que Jason avait versé une caution, et s'ils y retournaient, Jason aurait rompu le contrat. » D'autres disent que les magistrats, les gens qui gouvernaient la ville, auraient été très difficiles à traiter. Donc, quoi qu'il en soit, il dit au verset 18 « Plus d'une fois, nous avons voulu venir vous voir. En tout cas, moi, Paul. Quoi ? Mais Satan nous en a empêchés. Satan entrave le ministère. Attendez-vous à cela. Si vous pensez, eh bien, je pense que je vais développer un ministère, et tout va bien se passer. Et dès que vous butez dans le premier obstacle, oups, je ferais mieux de tout abandonner. Apparemment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous feriez mieux de le vérifier. Vous feriez mieux de bien vérifier, parce que c'est Satan qui met des bâtons dans les roues. C'est son occupation favorite. Je suis sûr que plus vous êtes efficace, plus il vous en empêche. En fait, l'apôtre Paul, pendant la période de son ministère, est passé par un obstacle terrible, qu'il a appelé une épine dans la chair, et il a dit qu'elle était un messager de qui ? De Satan, envoyé pour m'embêter. Il est toujours là à taper sur moi, et veut me rendre malheureux. Il veut me faire arrêter, mais je reste ferme. Et si Dieu dit que c'est bon pour moi d'avoir cette lutte pour me garder humble, c'est très bien, parce que quand je suis faible, alors je suis quoi ? Je suis fort. Et croyez-moi, avec tout ce que fait Satan, les plans de Dieu ne sont jamais court-circuités. Satan filtre simplement les mauviettes. Quatrièmement, Satan non seulement entrave notre service, mais, et voici quelque chose d'énorme, il infiltre l'Église. Il est vraiment bon à cela. Vous dites, comment fait-il ça, John ? Tout d'abord, grâce aux faux chrétiens. Il fait en sorte que l'Église ouvre ses portes à des personnes qui semblent être chrétiens, et nous ne pouvons pas vraiment les distinguer des autres, mais ils sont vraiment des gens qui suivent le diable. Et puis Satan peut attaquer par l'intérieur, car ces personnes créent vraiment des ravages, et de plusieurs façons. Ils le font en ayant un mode de vie qui ne correspond pas à ce qui leur est demandé. Et donc le monde ne voit pas ce qu'est un vrai chrétien. Ils deviennent difficiles à traiter. Nous ne savons pas comment les gérer. Plusieurs choses. Ils essaient habituellement de faire leur chemin pour appartenir à l'équipe des responsables, de sorte que Satan est une voix partout. Dans Matthieu 13, au verset 38, il est dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le seul moyen pour séparer le blé et l'ivraie sera exécuté par Dieu à la fin. Nous ne pouvons pas toujours faire la différence. Satan infiltre l'Église avec de faux chrétiens. Grace Church en a eu. Je sais que nous les avons parce que Satan fait cela. Si je savais qui ils sont, nous ferions tout notre possible pour les amener à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et, s'ils sont apostats, nous aimerions les faire partir. Mais nous ne pouvons pas les reconnaître. Nous pouvons quelquefois trouver certains d'entre eux. Tôt ou tard, ils se font démasquer, mais pas tous. Nous savons que Satan fait son travail. Si vous faites partie de l'ivraie, nous savons que vous êtes ici, mais nous ne savons pas qui vous êtes. Non seulement Satan infiltre l'Église à travers de faux chrétiens, mais par le biais de faux enseignants. Nous l'avons vu plus tôt. Il aime transmettre de fausses informations dans l'Église. Quelqu'un propage une fausse doctrine qui sonne bien. Quelqu'un qui semble être approuvé par la direction de l'Église enseigne quelque chose qui semble être bien. Mais ce n'est pas vrai. L'Église est pleine de faux docteurs, et l'a toujours été. 1 Timothée, chapitre 4. Nous l'avons lu plus tôt. Cela va se passer dans les temps de la fin, par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges. 1 Jean 4 dit « Cherchez-les, ils sont là. » 2 Pierre 2 dit « Il y aura de faux docteurs, ils seront toujours autour de nous. » Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur débauche, et, à cause d'eux, on calomniera la voix de la vérité. Voilà pourquoi, dans l'armure du chrétien, nous devons prendre l'épée. Mais l'épée de quoi ? L'épée de l'esprit, qui est quoi ? La parole de Dieu. Parce que nous devons contrer l'infiltration d'une fausse doctrine de Satan dans l'Église. Il l'infiltre par le biais de faux frères, avec de fausses doctrines, et une chose qui est vraiment critique. Il infiltre l'Église par la division. Satan aime diviser l'Église. Cela lui apporte de la joie. Permettez-moi de vous donner une illustration de cela dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Et c'est très important. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Je vais vous le lire à partir de la version Semeur, qui permet de déchiffrer l'indéchiffrable. C'est un peu plus difficile dans la Bible Second, verset 5. « Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous. Si quelqu'un vous fait du mal, ce n'est pas moi, mais vous qui l'a blessé. Le châtiment que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. » Maintenant, nous avons ici un homme qui a créé des problèmes. Certains disent qu'il est assimilé à l'homme immoral mentionné dans 1 Corinthiens 5. C'est un point discutable. C'était un homme immoral à un moment donné, et Paul avait demandé aux Corinthiens d'agir avec cet homme. Il y avait une lettre écrite entre 1 et 2 Corinthiens, et dans cette lettre, Paul avait très probablement donné des instructions pour qu'il s'occupe de cet homme. Maintenant, il a entendu, dès le retour de Tite, que les Corinthiens avaient pris des mesures essentielles pour discipliner l'homme. Il y avait peut-être seulement une minorité qui était en désaccord. La majorité a accepté, et cet homme a été discipliné. Maintenant, Paul est satisfait que l'homme l'ait été et que la discipline fût suffisante pour accomplir ce qu'elle était censée accomplir. Il veut que ces derniers cessent d'être des administrateurs pénitentiaires, qu'ils se tournent vers le gracieux privilège opposé, en étant indulgents et des amis consolateurs. Il dit « Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé. Je veux dire, ne prolongez pas la punition à cause de moi, ça suffit. Je suis satisfait. J'espère que vous l'êtes. Il a eu assez de douleur. La punition est suffisante pour l'homme. » Maintenant, verset 7. « De sorte que vous devez bien plutôt lui faire grâce et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. En d'autres termes, au lieu que sa peine soit corrective, il serait tout simplement conduit vers le désespoir si vous continuez. Une fois qu'un homme a été discipliné, s'il se repent, il est alors restauré, n'est-ce pas ? Galates 6 au verset 1. Si vous continuez à l'intimider, à le punir, au lieu d'avoir un effet de rattrapage, la discipline aura un effet de désespoir, et vous le conduirez dans la tristesse. Alors il dit au verset 8. Je vous encourage donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Montrez-lui que vous l'aimez. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit, que je puisse avoir la preuve, que vous soyez obéissant en toutes choses. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Si vous avez pardonné l'homme, je l'ai fait aussi. Ne continuez pas à cause de moi. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. Je veux l'unité dans l'Église, et vous devez avoir le pardon pour avoir l'unité. Si vous créez ce problème dans l'Église, car vous ne pardonnez pas l'homme, vous l'intimidez, vous maintenez une attitude pénale et autoritaire envers l'homme, vous allez avoir de la division dans l'Église et un manque de pardon. Le verset 11 dit « Pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et quels sont ses desseins ? Il aime diviser l'Église, et il n'y a pas de meilleure façon de diviser l'Église qu'en ayant une situation de discipline, dit Paul, avec un esprit impitoyable. Son dispositif est la division. Une fois qu'il a été discipliné, aimez-le. Écoutez. Quel est le principe général ? Écoutez-moi. Une surenchère sur la doctrine à l'exclusion de l'amour peut être mortelle pour l'Église. Avez-vous remarqué que la subtilité de Satan et son déplacement directement dans l'Église, qui est doctrinalement correcte ? Ils avaient fait la bonne chose, et c'était un mouvement parfait pour que Satan se déplace pour se mettre derrière la saine doctrine avec la tentation. Comme nous l'avons dit tant de fois, l'Église est construite sur deux choses, l'amour et la saine doctrine. Trop de saine doctrine, pas assez d'amour, égale la division. Trop d'amour, pas assez de saine doctrine, égale la confusion. Une autre chose que Satan fait, et ceci est la chose la plus importante, c'est qu'il nous tente à pécher. Maintenant, il peut le faire à travers la chair ou à travers le monde. Il peut le faire par ses démons ou par lui-même. Mais il vous tente à pécher. Il est le tentateur. Maintenant, je vais vous donner une liste, très brièvement, parce que notre temps est écoulé, des péchés avec lesquels il nous tente en particulier et qui sont énumérés dans la Bible. Premièrement, il nous tente de faire confiance à nos propres ressources. Vous avez déjà remarqué cela ? Il nous tente de faire confiance à nos propres ressources. « Je me suis réveillé ce matin. Enfin, après avoir dormi pendant un certain temps, ma femme a dit « Comment est la douleur ?» Je lui ai dit « C'est un peu mieux. Je pense que je connais une des raisons pour laquelle Dieu a permis que je sois malade la nuit dernière. » Ce que j'ai exprimé, en gros, pas dans ces mots exacts, c'était le fait que je m'étais préparé pour aujourd'hui. Je crois en la préparation. L'une des tentations dans laquelle je tombe est de faire confiance à ma préparation plutôt que dans l'Esprit de Dieu, parce que je fais mes devoirs, et je dis « Je pense que ce que j'aurais dû faire était de passer la nuit réalisant que je ne pouvais pas ouvrir ma bouche, à moins que Dieu ne soit là pour me le permettre. » Satan aimerait que vous mettiez votre confiance dans votre propre ressource. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gérer Satan par vous-même. Saviez-vous cela? Vous ne pouvez pas le manipuler. Je vais vous donner une illustration. Allez à 1 Chronique, chapitre 21. Vous savez, Israël avait beaucoup de guerres à cette époque. C'était une période assez typique dans leur vie, les luttes avec les ennemis, et David, bien sûr, voulait être victorieux. Alors, regardez ce qui se passe dans le verset 1 de 1 Chronique 21. L'adversaire se dressa contre Israël. Il incita David à quoi? À dénombrer Israël, à compter les têtes. David dit à Joab et aux princes du peuple, « Allez, comptez Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan, c'est de haut en bas, et faites-moi un rapport, ainsi je connaîtrai leur nombre. Je veux savoir combien la nation est grande et la taille de notre armée. Vous allez là-bas et vous comptez toutes les têtes. » Joab dit, « Si le Seigneur rend ton peuple 100 fois plus nombreux, ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi demandes-tu cela? Pourquoi Israël se mettrait-il en tort? Écoutez, si nous travaillons tous pour Dieu, quelle importance, combien nous sommes? Joab, tu ferais mieux de fermer ta bouche, tu parles au roi, même si tu as raison. » Verset 4. Mais la parole du roi s'imposa à Joab, et Joab sortit. Et il a fait ce que le roi lui avait demandé de faire. Il a obéi au roi. Il a parcouru tout Israël et il est rentré à Jérusalem. C'était un gros travail de compter tout le monde, un recensement. Joab remit à David le chiffre du recensement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée. Voilà une armée, voilà une bonne armée. Et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Et David dit, « Oh, oh, nous sommes en forme. Venez, venez tous. Nous pouvons prendre n'importe qui. » Verset 7, j'aime cela. « Cet ordre déplut à Dieu et il frappa Israël. Voyons voir si tu gères cela, David. Tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. » Qui incite David à dénombrer le peuple ? Dit le verset 1. Qui l'a fait ? Satan aimerait que vous fassiez confiance à vos propres ressources. En ce qui concerne le chapitre 6 d'Éphésiens et le verset 10, Paul dit « Au reste, soyez puissants. Mais comment? Dans le Seigneur, par sa force souveraine. C'est ce qu'il dit. Puissance dans sa force. Satan veut que vous fassiez confiance à vos propres ressources. » Deuxièmement, Satan nous tente pour que nous perdions notre foi en Dieu. Il le fait vraiment. Satan nous tente pour que nous perdions la foi en Dieu, que nous renoncions à Dieu. Dans Luc 22, au verset 31, nous trouvons l'apôtre qui met souvent les pieds dans le plat. Pierre, à nouveau avec tous ses problèmes. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon !» Ce que le Seigneur disait tous les jours, sans doute, « Simon, Simon !» Je crois que Dieu voulait voir la glorification de Pierre plus que toute autre personne. Le Seigneur a dit, « Simon, Simon !» Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Vous savez ce que c'est que le tamisage? Séparez la paille et le grain. Prenez un panier, secouez-le dans le vent. Le vent souffle sur la paille et la graine tombe. Et vous avez la séparation. Satan essaie de te séparer, Pierre. Il essaie de te secouer dans le vent et souffler pour faire partir quelque chose et laisser autre chose. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Mais j'ai prié pour toi afin que quoi? Afin que ta foi ne disparaisse pas. Vous savez ce que je crois, c'est que Satan a essayé de séparer Pierre de sa foi. Il a essayé par le vent de l'adversité de souffler sur la foi de Pierre pour la détruire. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Je vais vous dire quelque chose. S'il priait pour lui que sa foi ne disparaisse pas, sa foi n'a pas disparu. Satan voulait le séparer de sa foi, vous voyez. Le diable voulait le passer au crible, afin de le séparer de sa foi. Satan aimerait vous séparer de votre foi, afin que vous cessiez de croire en Dieu. Dans 1 Pierre, nous trouvons la même chose illustrée dans le chapitre 5 au verset 8. Il dit ceci, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Maintenant écoutez, il va vous dévorer. Que veut-il dire par là? Opposez-vous à lui avec une foi ferme. » Et en anglais, l'article n'est pas là. Le verset dit avec foi. Satan veut vous engloutir. Il veut détruire votre foi. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, au verset 16, il est dit, « Prenez, en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Satan veut que vous fassiez confiance à vos propres ressources, et il veut vous séparer de votre foi en Dieu. Une autre chose, il veut que vous mentiez. Satan aime quand vous dites des mensonges. Dans Acte 5, au verset 3, il est entré à l'intérieur d'Ananias et de Saphira. Pierre les a regardés dans les yeux et il a dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint ? Satan veut que vous mentiez, rappelez-vous. Quand vous mentez, quand vous cachez la vérité qui est à la source de tout cela. » Quatrièmement, Satan veut vous inciter à l'immoralité. Il est très occupé à faire cela, croyez-moi. Il a les médias maintenant en tant qu'agent, entre autres. Un bon verset sur ce point est 1 Corinthiens 7, verset 5. Vous savez, parfois, dans des scènes conjugales, vous avez cette situation où l'homme arrive et dit « Eh bien, je dois redresser ma femme et mon mariage. » Et vous dites « Pourquoi ?» Et il dit « Eh bien, parce que ma femme ne veut plus dormir avec moi tant que je ne change pas, et je ne peux pas le supporter. Est-ce une bonne chose à faire ? Vous ne vous entendez donc pas avec votre mari ? Alors vous commencez à le priver de votre présence au lit. » Regardons 1 Corinthiens 7 au verset 5, il nous aidera. Permettez-moi de vous donner ce que dit le grec. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si vous faites cela, arrêtez de suite. Ne faites pas cela, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière et au jeûne. Si vous le faites avec cette raison, c'est une bonne chose. Peu le font, mais c'est une bonne chose. Pour toute autre raison, arrêtez, puis reprenez votre vie conjugale. Pourquoi ? De peur que Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. Si vous faites cela à votre partenaire, vous le mettez dans une position où il aura du mal à contrôler son désir. Est-ce que vous voyez ? Et Satan aime tenter les gens de cette manière, comme nous avons vu ici, car il veut nous pousser à l'immoralité. Un autre domaine, et nous allons accélérer pour terminer, car je vous ai gardé trop longtemps, mais peu importe, c'est une vérité importante. Une autre pensée. Il veut nous inciter à être préoccupés par le monde. Et nous avons vu cela tant de fois que nous n'allons même pas passer du temps dessus, sauf pour vous dire simplement que 1 Jean 2, verset 15 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Satan veut que vous soyez absorbés par le système, parce que cela signifie que vous avez tourné le dos à Dieu. » Dans 2 Timothée 4, verset 10, une déclaration dans toute la Bible qui fait réfléchir. Paul dit « En effet, Démas a fait quoi ? Il m'a abandonné par quoi ? Par amour pour le monde présent. » Satan veut vous inciter à faire confiance à vos propres ressources, à perdre la foi en Dieu, à vous séparer de votre foi comme le blé et la paille, à mentir, à être immoral et à être préoccupé par le monde. Satan veut aussi vous inciter à être fier. Oh, combien il veut faire cela ! Et il est très fort. Il le fait de plusieurs façons. Il y a une illustration dans 1 Timothée 3 au verset 6. Lorsque vous choisissez des évêques ou des pasteurs ou des anciens dans l'Église, il est dit « Que ce ne soit pas un nouveau converti, ce qui signifie un homme jeune dans la foi, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. » Le diable aime pousser les gens et les rendre fiers, parce que quand ils font cela, ils s'effondrent. Je peux vous le dire, car je l'ai vu dans l'Église tout au long de ma vie. Ceux qui sont récemment convertis, des gens immatures, prennent trop de responsabilités. La fierté monte à leur tête et la chute est grande. Une autre chose que je vois, et vous pouvez le voir aussi, et que la Bible nous dit spécifiquement, Satan aime nous tenter par le découragement. Le découragement. Il aime le chrétien qui se fatigue. 1 Pierre 5, verset 6. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, soyez ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous aurez souffert pour un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Satan s'installe, il attaque votre foi, il essaie de vous descendre, il apporte le découragement dans votre vie. Le verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Et puis lisez le verset 10 « Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même. » Accrochez-vous, amis, Dieu est dans votre équipe, ne vous découragez pas. Ce sont les moyens que Satan emploie pour nous attaquer. Il attaque ses propres enfants par la prévention, la perversion et la politique. Il nous aplatit en nous poussant à faire confiance à nos propres ressources, en nous faisant perdre la foi en Dieu, en nous poussant à mentir, à être immoral, à aimer le monde, à devenir fier, à nous décourager par des luttes spirituelles. Et de cette façon, il essaie de remporter la victoire. Mais vous savez quelque chose? Nous avons une grande promesse. Dans toutes ces tentations, bien-aimés, écoutez ceci, Jacques 4, verset 7, dit « De ne pas courir, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous au diable, et il vous fuira. » Prions. Père, nous reconnaissons ta puissance et ta supériorité, ta souveraineté absolue, et nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous te remercions pour la victoire qui est en Christ. Père, nous te remercions car cette victoire appartient à tout homme qui prononce le nom de Jésus-Christ. Et, ô Dieu, nous prions ce soir que s'il y a une chère âme au milieu de nous qui n'a pas encore confessé que Jésus est Seigneur, qui n'a pas été libérée de la puissance de Satan, qui n'est pas née dans le royaume de Dieu, pour devenir un enfant, un héritier, un co-héritier avec Christ, que cela puisse se passer ce soir, que le miracle de la nouvelle naissance s'accomplisse par l'Esprit Saint. Ô Dieu, que cela se produise ce soir. Et ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, Père, aide-nous à nous méfier. Aide-nous à être éveillés pour voir comment notre adversaire fait pour construire notre défense dans les domaines où nous sommes vulnérables. Merci, Père, de nous avoir donné ce livre précieux. Merci de l'ouvrir afin que nous comprenions non seulement tes voies, mais celles de l'ennemi, pour que nous puissions être en mesure de suivre notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la victoire qui a déjà été gagnée. Nous prions en son nom béni. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.